Je pense que ça va être bon. Eh bien, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à m'installer. Alors, on va continuer aujourd'hui l'étude qu'on a démarrée sur Marc. On fait une étude suivie sur Marc depuis un certain mois, un certain nombre de mois. Et c'est la dernière de l'année aujourd'hui. Il n'y a pas de message officiel. Le 24 et le 31, ça tombe bien. Du coup, je vais prendre les trois créneaux. Trois fois une demi-heure, ça fait... Une heure et demie, vous êtes prêts? Une heure et demie, bon ça va, je vais avoir le temps de... On a un très beau texte aujourd'hui, hein, mais je vais juste rappeler pour ceux qui n'étaient pas là peut-être, ou en deux mots, ce qu'on a vu la semaine dernière. Il a été question la semaine dernière, donc vous voyez, ça c'est la référence du jour, je vous invite déjà à prendre vos Bibles. La semaine dernière, on avait vu la question de la pureté de l'être humain. Hein, je fais le lien avec ce que Jérémie nous a dit. Et surtout l'illusion des pharisiens qu'on pouvait être pur en observant scrupuleusement la loi, hein, en prenant soin de l'extérieur. Et là, ils avaient pris l'exemple, ils ont pris Jésus à partie sur le lavage des mains. Et Jésus va balayer toutes leurs illusions en déclarant que l'impureté, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, elle vient du cœur humain. Et ce n'est pas les mains sales ou les mains propres ou la nourriture qu'on va prendre qui pose problème. Donc la loi et toutes les prescriptions de la tradition, tout ce que les pharisiens avaient érigé autour de la loi est inutile pour obtenir la pureté, au moins aux yeux de Dieu. On peut se faire des illusions, on peut être très bien en observant la loi. C'est ce que faisait le jeune homme riche, hein. Il était parfait sous toute couture. Il se présente devant Jésus, il a son billet au ciel, et Jésus lui dit, ben non, il te manque une chose, et c'est exactement ce dont il avait besoin. Donc cette impureté du cœur, il y a un problème ? Ça tombe bien, parce qu'il faut que je fasse mon enchaînement. Cette impureté du cœur, la Bible appelle ça le péché, hein. En hébreu, c'est le mot « kata », ça veut dire « rater la cible ». La cible, c'est ce que Dieu veut pour l'être humain. Et quand on rate la cible, eh bien, on pêche. Et ce péché est ancré au fond du cœur de l'être humain, un peu comme une seconde nature. Et donc, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il ne peut pas s'extirper. Hein. Ce péché qui est au fond de son cœur, qui le rend impur, le condamne irrémédiablement à être éloigné du seul Dieu qui, lui, est pur. Et c'est pour ça que Paul écrira que tout son péché... D'accord ? Donc pas d'illusion, c'est très clair. Si ce matin, quelqu'un pense encore, parce qu'il est religieux, parce qu'il vient au culte, il est parfait dans la lecture de sa Bible, etc., eh bien ça c'est inutile. Hein. Enfin, je ne dis pas que c'est inutile, mais ce n'est pas ça qui donne le salut. Le salut est en Jésus-Christ et ce n'est pas sur les bases de l'œuvre de la loi. J'en profite pour faire ce point de doctrine capitale, hein, qui ressort donc de ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, tous sont péchés, sans exception, mais tous sont gratuitement justifiés par la grâce qui est en Jésus-Christ. Que ce soit les pharisiens, que ce soit les disciples, que ce soit les païens, tout le monde est dans le même sac. Ils ont tous besoin de connaître le Messie pour avoir le cœur purifié. Et c'est pour cette raison, avant tout, que Jésus est venu. Et donc Jésus, à l'issue de cette discussion avec les pharisiens, a affirmé ça. Et il sous-entend même, dans ce qu'il va dire, qu'il n'y a pas de problème d'impureté des aliments, ce qui est révolutionnaire pour les pharisiens. C'était révolutionnaire parce qu'ils observaient scrupuleusement la loi. Il y avait les animaux purs, les animaux impurs, c'était vrai, c'était la loi. Et d'ailleurs, les pharisiens ne se mélangeaient même pas aux juifs à cause de ça, aux non-juifs. Ils ne se mélangeaient pas aux non-juifs, les pharisiens. Même aujourd'hui, si vous avez une famille juive pieuse, vous les invitez chez vous pour faire de l'évangélisation, ils m'ont refusé. Pourquoi ? Parce qu'ils se diront que peut-être l'assiette que vous allez utiliser est impure parce qu'il y a des traces de quelque chose d'impur. Et donc, ils vont refuser votre invitation avec un prétexte un petit peu fallacieux, mais c'est pour cette raison. Donc, vous voyez, Jésus va dire qu'il n'y a pas d'aliment impur, l'impureté, elle est dans le cœur de l'homme. Et il va... Dans le passage qui nous concerne aujourd'hui, il va le mettre en pratique. On va voir un peu comment. Donc, on va lire donc à partir du chapitre 7. Je vous invite à lire votre Bible. Mais pour bien comprendre ce qu'on va voir aujourd'hui, il faut garder à l'esprit qu'à ce stade, le but de Jésus, c'est vraiment d'enseigner ses disciples. Hein, on est en Marc chapitre 7. Il s'est révélé, il a fait des miracles, ils ont attesté sa divinité. Et le but de Jésus, c'est vraiment d'enseigner. Il n'est pas là pour être spectaculaire, il n'est pas là pour en mettre plein la vue, il n'est pas là pour multiplier les miracles. Gardez bien ça à l'esprit pour comprendre le texte d'aujourd'hui. Et donc, je vous invite à prendre vos Bibles, hein, en Marc chapitre 7, et on va lire donc... Il va y avoir donc trois interventions particulières de Jésus qui ont un point commun. Et je vous invite à essayer de trouver le point commun de ces trois interventions. Donc je lis à partir du verset 24 du chapitre 7. Je vais lire, alors, je vais avancer la diapositive. Normalement, je dois avoir le texte, mais en fait, je l'ai mis dans la nouvelle... J'ai mis dans la seconde 21, mais je vais vous lire dans la nouvelle français courant. Donc si vous voulez écouter, peut-être ça vous donnera un autre éclairage du texte. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison et il voulait que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché. Une femme dont la petite fille était possédée par un esprit impur entendit parler de Jésus. Elle vint aussitôt se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, née en Phénicie de Syrie. Elle priait Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Mais Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants manger à leur faim, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle lui répondit, Seigneur, les petits chiens aussi, sous la table, mangent les miettes des petits enfants. Alors Jésus lui dit, va, à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. Elle retourna chez elle et là, elle trouva la petite fille étendue sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée, en plein territoire de la Décapole. On amène à Jésus un homme sourd qui a de la peine à parler et on le supplie de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart loin de la foule, il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme, « Ephphatha », ce qui veut dire « ouvre-toi ». Donc c'est de l'araméen. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus recommanda aux gens de n'en parler à personne, mais plus il leur recommandait, plus il répandait la nouvelle. Les gens étaient impressionnés au plus haut point. Ils disaient, tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait entendre les sourds et parler les muets. En ces jours-là, une foule de gens s'était de nouveau assemblée. Comme les gens n'avaient rien à manger, Jésus appela ses disciples et leur dit, je suis bouleversé par cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont avec moi, ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux, le ventre vide, ils se trouveront mal en chemin et certains d'eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, où trouver du pain pour les faire manger à leur faim dans cet endroit désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? Ils dirent 7. Il ordonna à la foule de s'installer par terre, puis il prit les 7 pains, remercia Dieu, les partagea et il les donnait à ses disciples pour les distribuer à tous. C'est ce qu'ils firent. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus dit une prière de bénédiction pour ces poissons et dit à ses disciples de les distribuer aussi. Les gens mangèrent à leur faim. On ramassa 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Or, il y avait là environ 4000 personnes. Puis Jésus les renvoya. Voilà, on va arrêter là. Donc, un texte un petit peu long. Et une lecture superficielle de ce texte pourrait le faire apparaître comme un banal enchaînement de miracles qui sont générés au gré des circonstances. Hein. Marc, c'est en général très court, très direct. Donc on pourrait le prendre comme un enchaînement de miracles. Bon, ben voilà, il a rencontré cette femme qu'on appelle parfois femme cananéenne. Puis après, voilà, il va guérir le sourd et après il va multiplier les pains. Après, il va faire ci, il va faire ça. Souvent, on lit ça comme ça et on ne s'arrête pas sur le sens de tout ça. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Quel est le point commun entre ces 3 miracles ? À votre avis, est-ce qu'il y a un point commun entre ces 3 miracles, quelque chose qui les réunit dans un même panier qui fait qu'aujourd'hui on les traite comme ça? Ouais, t'as une idée? Ils ont tous prié? Et qui a prié? Ah, il y a le sourd? Non, le sourd n'a pas prié. Ah, il avait du mal à parler. Enfin, il y a eu de la prière. Oui, il y a eu de la prière. Puis Jésus a prié pour la multiplication des pains. Ça, tu as raison. Est-ce que vous pensez à autre chose, quelque chose qui les réunit? Non, pas d'idée? Ah ben dis donc, aujourd'hui t'es prolifique, vas-y. Alors ça c'est vrai, effectivement, ils sont, voilà, il y a eu une convergence vers Jésus, hein. Ils ne sont pas allés demander aux guérisseurs du coin, ça c'est très juste, bravo, Loïc. Mais il y a un autre point commun, oui. Oui, alors il y a la compassion de Jésus, oui, c'est un très bon point, on le verra tout à l'heure de quelle manière, et notamment qu'est-ce que ça a à nous apprendre, nous, la compassion. Mais il y a un chapeau qui est plus général, je crois, dans ce texte qui a beaucoup d'importance. Alors, c'est pas facile, hein, parce que vous allez voir, il faut décortiquer un petit peu. Tous ces miracles, en fait, toutes ces actions se passent en territoire étranger. D'accord ? Et je vais m'expliquer pourquoi. Hein ? Pourquoi est-ce que Jésus va aller en territoire étranger ? Il y a plein de raisons, mais l'une des raisons à ce stade, je vous ai dit, il est là pour enseigner. Jésus, il a besoin de paix. Parce que maintenant, quand il se balade en Galilée, en Judée, tout le monde lui saute dessus, tout le monde veut être guéri. Alors Jésus ne se fait pas d'illusions, hein. Il dira en Jean 6, si vous me suivez, ce n'est pas parce que vous avez vu la multiplication des pains, enfin ce n'est pas parce que vous avez cru en moi, c'est parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Il va donner son enseignement, travaillé par la nourriture qui périt. Donc il sait pertinemment que les gens le suivent bah, pour ses miracles. Hein. S'il ne faisait pas de miracles, ça n'intéresserait pas les gens. Et donc il a besoin de s'isoler. Hein, parce qu'on n'est quand même pas loin, là, on est dans la dernière année du ministère de Jésus, on n'est pas loin du départ de Jésus, Jésus le sait, il a un timing dans la tête, il a une idée précise des enchaînements, il a besoin de paix pour enseigner ses disciples. Et donc, pour bien comprendre ce passage, je vous propose, on va faire un peu d'histoire et de géographie. Alors, je sais qu'on perd du temps en faisant ça, mais vous allez voir, ça va vous éclairer le texte, et ça va éclairer aussi votre compréhension d'une partie de l'Évangile. Alors, je reprends très rapidement, 1000 avant Jésus-Christ, le royaume de David, déportation à Babylone, tout ça vous connaissez. À partir de ce moment-là, Israël n'est plus maître chez lui, il y a toujours des invasions. C'est les Babyloniens, ensuite c'est les Perses, de 538 jusqu'à Alexandre le Grand. D'accord ? Donc c'est les Grecs qui arrivent. C'est très important parce que l'arrivée des Grecs, hein, autant les Perses avaient donné de l'autonomie au peuple, il y avait des satrapies, d'accord, c'est-à-dire des provinces qui étaient administrées de manière très autonome. Les Grecs, ils arrivent avec leur culture. Alexandre le Grand, il a fondé plein de villes. Et la culture grecque se répand dans tout le Moyen-Orient. À tel point qu'aujourd'hui, on est complètement influencé par la culture grecque sans qu'on le sache. D'accord ? Et puis, il va se passer ce qu'on appelle l'hellénisation des populations. L'hellénisation, c'est la diffusion de la culture grecque. Souvenez-vous, les Juifs, c'était le peuple de Dieu, ils avaient une culture particulière. Et cette hellénisation rampante qui va avancer pendant les siècles, hein, de 330 jusqu'à la période de Jésus, va transformer complètement la culture. Et il va y avoir un événement très important en 1568. Il va y avoir l'un des rois que vous connaissez bien, qui s'appelle Antiochus Épiphane IV, qui est l'un des rois dominants de la culture grecque. À l'époque, hein, c'était la dynastie des Séleucides, et lui va non seulement helléniser, mais il va persécuter l'ensemble du peuple juif, il va faire cesser même le culte juif, hein, en profanant le temple, il va sacrifier une truie sur le temple, il va introduire une statue de Zeus. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que à ce moment-là, la culture juive a été complètement étouffée. Mais il y a eu une révolte, hein, de la famille des Maccabées, vous avez entendu parler de Maccabées, il y a des livres apocryphes qui parlent de ça. Il va y avoir une révolte, et cette révolte des Maccabées va donner place à la dynastie des Asmonéens, d'accord ? Et il va y avoir lentement une reconquête, hein, reconquistada, comme diraient les Espagnols, d'accord ? C'est-à-dire qu'il va y avoir progressivement des territoires qui vont revenir à la culture juive au sein de cette vaste Palestine à l'époque. C'est ce que j'ai indiqué comme judaïsation partielle. Alors comment ça va se passer ? Ben parce que, comment est-ce qu'ils ont réussi à se révolter ? Parce que Judas Maccabée, petit malin, il a dit « Les Grecs nous dominent, on va faire appel aux Romains ». Bon, il ne savait pas dans quoi il mettait le doigt, mais il a quand même fait appel aux Romains. D'accord ? Alors les Romains, ils ont dit « Bien sûr, on va te donner un coup de main ». Et puis ils en ont profité. Ils ont fait une belle razzia, ce qui fait que du temps de Jésus, c'est les Romains qui dominaient. Bref, voilà, donc un petit peu, comprenez bien qu'il y a cette hellénisation rampante et cette reconquête de territoire. C'est un peu ce qui se passe maintenant, finalement. Les Juifs se sont installés en 1968, ils ont eu des tout petits territoires, puis ils ont grappillé, ils continuent à grappiller, puis vous entendez parler de la colonisation de la Cisjordanie. Ben, c'est un peu comme ça. Ça s'est passé comme ça à cette époque-là. Hein, c'est-à-dire que la dynastie des Séleucides, ben, progressivement, ils se sont fait grappiller. Alors, la famille des Asmonéens, c'est vraiment Dallas, quoi. Hein. Il y a eu des intrigues pas possibles. Je passe tous les détails. Qu'est-ce qui est important à retenir ? C'est que du temps de Jésus, il y avait des territoires hellénisés qui sont restés hellénisés. Alors, mes traits, ils sont approximatifs, mais grosso modo, retenez que la partie centrale était hellénisée. Et il y avait deux territoires vraiment judaïsés, c'est la Galilée au nord et la Judée au sud. C'est pour ça que Jésus, on le voit sans arrêt, faire la navette entre Judée et Galilée, parce qu'il se déplace dans les territoires juifs. Et donc, dans les trois textes qui nous intéressent aujourd'hui, Jésus va sortir des territoires judaïsés pour aller dans les territoires hellénisés. En l'occurrence, il va aller au nord, donc dans la Phénicie, d'accord, qui n'a jamais appartenu au royaume d'Israël. Hein. Souvenez-vous, c'est la partie côtière, Tyr, Sidon. Il y avait le roi de Tyr qui fournissait des bois à Salomon, etc. Et puis, il va revenir dans la Décapole. Donc, on va voir une carte un petit peu plus détaillée hein, de la partie, donc c'est le lac de Galilée. Hein, je vous resitue par rapport à la carte d'Israël. On est remonté au nord. Vous voyez le lac de Galilée ici. Et donc, j'ai essayé, alors c'est un vaste crobar qui n'est pas terrible, mais vous allez vous y reconnaître. J'ai essayé de manifester ici les différentes caractéristiques. Alors, vous voyez, le petit 1, là, qui est dans le rond bleu, vous avez la première multiplication des pains et la controverse sur la tradition. Ça se passe sur la rive ouest du lac de Galilée, et c'est là que, on est en territoire juif, et donc c'est là que, dans le territoire juif, Jésus, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, d'accord ? Et puis, au moment où on a commencé notre lecture, vous voyez, Jésus va commencer un périple. Hein, donc là, j'ai supposé que Jésus passait par là parce que c'était les routes. Hein, les routes traditionnelles, la Galilée est très montagneuse, il y a des routes qui passent par des vallées, et donc il est probablement passé par la route côtière, et il est allé dans le nord, Tyr et Sidon. Sidon est à 40 km. Donc Jésus, pour aller dans le nord, il va quand même faire 60 km de... Si c'est pas rien, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de train. Donc, il y va quand même d'une manière... Enfin, c'est pas hasardeuse non plus. Il va rencontrer la femme cananéenne. Et puis, vous voyez, après, il va redescendre. Il va redescendre, donc, probablement par la vallée du Jourdain, je pense, hein, puisqu'il est, il est dit, il a regagné... Après cette région, il passe par Sidon, et il redescend par le sillon central, et il va passer dans la partie ouest du lac de Galilée, où il va donc guérir le sourd-muet et multiplier les pains. Voilà. Donc, on est en territoire étranger, et ce n'est pas pour rien. Hein. Ce n'est pas pour rien, je vous ai dit, il y a plusieurs raisons. Hein, parce qu'il veut être tranquille, il veut enseigner, mais également, on verra, il y a une intention chez Jésus. Hein. Il y est déjà allé, hein, le démoniaque de Gadara, il était déjà de l'autre côté du lac de Galilée, hein, dans la partie là où il y a du rouge 2 et 3, là. Quand il était dans... Vous savez, vous connaissez l'épisode des Géraséniens, hein, quand il traverse, il va guérir le démoniaque, il y a le troupeau de porcs qui se jette dans la mer. Donc ça se passe aussi dans la région de la Décapole, région hellénisée, hein, donc c'est des gens qui sont sous influence culture grecque, qui parlent le grec couramment, etc. D'accord ? Voilà. Alors, pour bien comprendre donc tout ça, on va faire maintenant l'exégèse, c'est-à-dire l'interprétation de ces miracles. Qu'est-ce que ces miracles, finalement, vont nous apprendre ? Donc, ces trois épisodes, déjà, ils ne sont que dans deux évangiles, hein, dans Marc et dans Matthieu. Hein. Jean et Luc n'en parlent pas du tout, ce qui est un peu étrange, parce que Luc, il est vraiment très pointilleux, très détaillé, mais il ne parle pas de ces épisodes. Hein. Donc, la femme cananéenne, il y a le sourd-muet, d'ailleurs, le sourd-muet, il n'est décrit que dans Marc. Hein. Dans Matthieu, vous avez... une allusion à cet épisode, il va parler de la guérison d'un grand nombre. Donc il est noyé, la guérison du sourd-muet est noyée dans la guérison du grand nombre. Et puis il y a cette fameuse multiplication des pains. Et en fait, là, c'est une deuxième multiplication des pains. Il y a deux multiplications des pains, puisqu'on l'a vu dans Marc 6. C'était Colin, je crois, qui avait parlé de la multiplication des pains. Voilà. Et on peut se demander pourquoi Jésus multiplie deux fois les pains. Après tout... à quoi ça sert ? Il l'a fait une fois. Bon, Et donc, cette deuxième multiplication des pains, il n'y a que Marc qui la rapporte. Donc, c'est intéressant, Marc, qui est très synthétique, c'est un évangile court et direct. Voilà. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Hein. Ça, peut-être ça attire votre curiosité. Bref, on va essayer de voir. Hein. Donc, on est en territoire étranger, d'abord à Tyr et Sidon, et puis dans la Décapole. Et Jésus donc part à l'étranger pour fuir la popularité, pour fuir les foules qui sont avides de miracles et prendre le temps d'enseigner les disciples. Mais Jésus, vous savez, il est toujours soumis à la volonté du Père. Donc tout ce qu'il fait, il l'a dit lui-même, hein, il fait ce qu'il voit faire au Père. Donc Jésus, quand il fait quelque chose, prenez ça comme principe, il est toujours intentionnel. C'est jamais le hasard. Il est toujours prêt à des rendez-vous divins. Vous savez ce que c'est qu'un rendez-vous divin ? C'est vous prier le matin, « Seigneur, donne-moi l'occasion de témoigner. » D'accord ? Et puis, à 11h30, vous êtes chez Pimki à la part Dieu, et Dieu va mettre sur votre chemin une personne. Voilà. Alors, Pimki, c'est bon. Ça fait sourire. Mais Dieu va mettre sur votre chemin une personne, par exemple, qui va vous irriter. Et puis, il va voir, il va tester votre patience. Ça, c'est un rendez-vous divin. Ben Jésus, il en a plein des rendez-vous divins comme ça. Et il est toujours intentionnel et il va honorer ces rendez-vous divins. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la guérison de la femme cananéenne ? Alors, la femme cananéenne, la femme syrophénicienne, il y a plusieurs appellations. Hein. Le texte, alors il y a un texte parallèle en Matthieu 15, on n'aura pas le temps de le prendre. Et de toute façon, comme le temps est court, je vais vous faire vraiment une synthèse en trois points de ce passage, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup à dire. Rien que ça, on peut faire une prédication là-dessus, mais comme on en a trois, bon, on va essayer d'avancer là-dessus. Alors, cette femme cananéenne, on peut s'arrêter d'abord sur son attitude. Qu'est-ce qu'on peut dire sur son attitude ? D'accord ? Alors, cette femme, premièrement, elle va violer l'intimité de Jésus. On a dit que Jésus voulait vraiment être seul, il voulait rentrer dans cette maison, il voulait garder du temps pour ses disciples. Elle se jette à ses pieds, hein, c'est vraiment un signe de soumission à l'autorité. Elle l'appelle Seigneur, fils de David, d'accord ? Ça, c'est dans Matthieu. Donc, et la Bible nous dit qu'elle avait entendu parler de Jésus. C'est une femme étrangère qui avait entendu parler de Jésus. Donc, c'est des gens qui ont la foi. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où des étrangers ont entendu parler de Jésus et ça a réveillé leur foi. On peut citer Naaman le Syrien, il y a Ruth, enfin voilà, il y a plein de femmes étrangères. Donc, Jésus ne rejette pas les étrangers. Ce qu'on peut noter, c'est qu'elle est extrêmement respectueuse de l'autorité et de la priorité d'Israël. D'ailleurs, Jésus lui rappelle, il va presque la défier en lui disant, alors il y a cet épisode des petits chiens, on va l'expliquer tout à l'heure, hein, Jésus ne manquera pas de lui le rappeler, comme si Jésus voulait la décourager finalement. Et puis elle est consciente qu'elle est une étrangère, elle est consciente de sa place par rapport au peuple juif, mais elle ne réclame finalement qu'une petite fraction du temps de Jésus. Elle a besoin d'un tout petit peu de temps, elle a juste besoin que Jésus lui prête attention un tout petit moment. Vous voyez, ça c'est le symbole des petites miettes. Hein. Elle a juste besoin des petites miettes et Jésus va honorer les petites miettes. Il va lui dire « va rentre chez toi ». Il ne va pas faire tout un cinéma comme on verra avec l'aveugle où il y aura un protocole de guérison. Il lui dit juste « va rentre chez toi hein. ». Et elle va rentrer chez elle et sa fille sera guérie. Donc, c'est une femme qui finalement, eh bien, démontre une très grande foi. Et je pense à, quand je lis ce passage, je pense à cette femme atteinte d'une perte de sang qu'on a vue il y a 2 mois. Hein, c'est moi qui faisais le message là-dessus aussi. Alors, je ne vais pas revenir, il y a une très grande foi ici, là derrière. Et cette femme a une attitude très spéciale, mais étrangère, très respectueuse. Vraiment une attitude qui honore, vous voyez. Je me dis qu'aujourd'hui, le peuple juif, de nos jours, il a beaucoup d'ennemis. Et si les ennemis du peuple juif, au lieu de dire « Ouais, mais les juifs, ils sont comme ça, ils ont Dieu, et nous, on n'a rien pour nous, etc. » S'ils pouvaient considérer juste le travail de cette femme qui est étrangère, qui, entre guillemets, n'avait rien, droit à rien, hein, c'est ce que Paul dira, vous étiez de ce temps étranger du peuple de Dieu, hein, dans les Éphésiens, et puis Dieu vous a réconciliés. Et là, on voit que Dieu a réconcilié cette femme, finalement, avec lui-même et avec Dieu, puisqu'il a guéri sa fille. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'attitude de Jésus ? Ça, c'est intéressant aussi. Jésus, il a fait 60 km, il s'est dit, je vais me mettre à l'écart. Vous savez, il a fait un séminaire au vert. Hein, on dit, c'est la mode aujourd'hui, quand on veut parler stratégie en entreprise, on fait un séminaire au vert, on s'isole, comme ça, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas les secrétaires qui appellent, etc. Donc, il a fait un voyage de plus de 60 km, et là, pan, il y a une femme qui arrive, qui l'embête. Hein. Donc, il est dérangé, et il donne l'impression de vouloir la repousser avec des paroles qui sont dures, quoi. Alors, dans Matthieu, il dira, j'ai été appelé que pour les brebis perdues du peuple d'Israël. Et il prend même une comparaison avec les chiens. Alors là, c'est intéressant parce qu'il faut comprendre la place du chien dans les différentes cultures. Je vous ai dit, on est en territoire hellénisé. D'accord ? Chez les Juifs, les chiens, c'est des ordures. D'accord ? Paul dira « dehors les chiens » en Philippiens 3. « Dehors les chiens ». Donc les chiens étaient mal considérés. Dans la culture grecque, c'est tout à fait différent. C'est un peu comme dans notre culture. Les chiens étaient des animaux domestiques. Donc vous voyez, il n'y a pas la même perception des chiens de la femme et de la femme et de Jésus. Et Jésus s'adapte à la culture. Il sait que pour la femme, le chien n'a pas une valeur péjorative. Il se permet d'utiliser ça. Et il va lui donner une belle image. Il va lui dire, en gros, ce qu'il lui dit au travers de cet échange, il lui dit, ma priorité, c'est d'abord le peuple juif, mais en filigrane, il n'est pas opposé. Et d'ailleurs, la femme va réclamer quelques miettes et il lui dit, ok, je suis d'accord pour les quelques miettes, il va prendre le temps de lui donner ses miettes et il va l'envoyer avec sa fille qui est guérie. Moi, je trouve que c'est remarquable. Il n'y a aucune violence dans ce texte si on comprend cette histoire de culture entre les hellénisés, on va dire, et les judaïsants. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'attitude des disciples ? L'attitude des disciples, ils sont vraiment dérangés. Ils veulent mettre fin à l'épisode. Très souvent, ils sont intervenus comme ça. On leur amène les petits-enfants, ils disent « Ah non, mais laisse les petits-enfants, les enfants, ça compte pas, etc. » Et là, c'est pareil. Ils veulent mettre fin. Alors ça, c'est dans Matthieu, il ne nous l'a pas dit dans Marc, mais dans Matthieu, les disciples veulent les repousser. De la même façon, pour la femme atteinte d'une perte de sang qu'on a vue il y a quelque temps, c'est pareil, les disciples, en fait, ils sont tellement focalisés sur la mission de Jésus que tous les dérangements qui sont autour d'eux, ils veulent les repousser. Non, priorité à Jésus. Ils sont plus préoccupés par la mission globale que par les rendez-vous divins et l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris dans ma vie, que parfois, dans mes actions, aussi louables soient-elles, l'instant présent était plus important que la mission. Je vais vous donner un exemple concret. Hier, j'étais en train de travailler sur ce texte. J'ai beaucoup travaillé sur ce texte parce qu'il est, au premier abord, il est simple et il est compliqué. Et là, je reçois un coup de fil. Je vois arriver un coup de fil d'un frère. Et j'étais en pleine réflexion. J'étais concentré. Et je me dis, je prends pas. Et puis après, vous voyez, mon premier réflexe, c'est je prends pas. Et puis je me suis dit, le frère, il m'appelle. C'est samedi matin. Il doit avoir besoin. Allez, je vais lui consacrer du temps. J'ai décroché. Je suis resté 20 minutes au téléphone, il avait vraiment besoin. Et je me dis, j'aurais pu passer à côté. C'était louable, hein ? Vous vous rendez compte ? Je travaille pour le Seigneur, pour l'Assemblée Sonnera. Pas d'excuses. Le frère, il appelle. Non, le frère, il avait besoin là, maintenant, au moment où il appelait. Et ça, pour moi, ça a été vraiment, vraiment une leçon. Parce que très souvent, je ne me laisse pas déranger. Et c'est vraiment un tort, c'est de prendre le temps de faire ce que Dieu a préparé d'avance, ce fameux rendez-vous divin de Pimki. Vous allez vous en souvenir, du Pimki. Alors, les conséquences de tout ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Jésus va souligner d'abord la grande foi de cette femme. Ce n'est pas souvent que Jésus souligne la grande foi des gens. Vérifiez dans les évangiles, il y a deux fois où Jésus va publiquement louer la foi des gens. Ça va être pour deux païens. Il y a cette femme-là et il y a le centurion romain de Matthieu 8:5. Je n'ai pas le temps d'y aller, mais vous irez voir. Le centurion romain qui lui dit « Seigneur, je ne suis pas digne de rentrer sous ton toit, mais dis seulement une parole. » Et il dit une parole et pareil, guérison à distance. Et la grande foi du centurion romain. Donc les deux actes de foi qui sont loués par Jésus dans les évangiles, ce n'est pas sur des juifs super pieux, ce n'est pas sur des pharisiens, c'est pour des étrangers. Donc vous voyez, le regard que Jésus a sur les étrangers et sur sa mission. Parce que Jésus, on verra tout à l'heure, c'est magnifique ce texte, sa mission, c'est ça. Alors en quoi la foi de cette femme est grande? Je vais vite là parce que je vous laisserai lire le texte, mais je veux juste souligner. Ah ben là, je reviens en arrière là, qu'est-ce qui se passe? Ouh là 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 là. Bon. Alors en quoi la foi de cette femme est grande? Ben, elle surmonte plein d'obstacles, comme je vous renvoie à la femme atteinte d'une perte de sang. C'est une femme, c'est une cananéenne, ce sont des ennemis de Dieu. Il y a les disciples qui la repoussent, même Jésus semble la repousser. En fait, Jésus, il va tester sa foi, un peu comme la femme atteinte d'une perte de sang. Vous savez, elle était toute tremblante et Jésus l'amène en public en disant « Hé, il faut que tu confesses ». Et pourquoi? Parce que ça a fait du bien à plein de gens, cette confession. Et donc, elle croit Jésus sur parole. Et finalement, elle va être exaucée, sa fille sera guérie. Donc, les deux conséquences, Jésus souligne sa foi et... Décidément, excusez-moi pour le... Elle rentre chez elle et elle est guérie, d'accord? Je vais vite là-dessus, je vous renvoie au message sur la guérison de la femme atteinte d'une perte de sang. Alors, deuxième miracle, la guérison du sourd-muet. Donc là, Jésus, il est toujours en territoire étranger, d'accord? Il est à l'ouest du lac de Génézareth. Pareil, il fait 70 km au retour. Et donc, là, je voudrais faire... une remarque, vous posez deux questions et soulignez une conséquence. Alors, la guérison du sourd-muet, premièrement, il y a un artifice intéressant, un artifice grammatical qui est très intéressant de noter. C'est qu'à un moment donné, Jésus arrive et tout le texte est au passé simple, même dans vos Bibles, hein, dans la seconde 21. Et c'est pour ça que j'ai lu dans la nouvelle Bible, la nouvelle français courant, parce qu'il est dit au verset 32... On amène à Jésus un homme sourd qui a de la peine à parler et on le supplie de poser la main sur lui. Le texte est au présent, ici, d'accord? Le grec est un présent, alors que tout le texte est au passé. C'est un passé narratif, un passé simple. Et cet artifice grammatical, il n'est pas là pour rien. Il n'est pas rien pour rien parce que ça souligne l'immédiateté narrative. C'est le dérangement. Vraiment, il y a un dérangement. Jésus, pareil, il est là pour enseigner ses disciples et soudain, on amène, toujours la même histoire, il y a des gens qui amènent et on supplie. La femme cananéenne, elle arrive, elle se jette à ses pieds, elle supplie pour quelqu'un d'autre. Là, c'est des gens qui amènent, qui supplient pour quelqu'un d'autre. Là aussi, dérangement. Est-ce que Jésus va se laisser déranger? Hey, attends, j'ai pas le temps, il faut que j'enseigne mes disciples, tu comprends? La passion, elle est dans quelques mois et tout. Ben non, Jésus va prendre le temps, comme pour la femme cananéenne. Il va prendre le temps. Et ces deux miracles sont un petit peu parallèles. Deux fois de suite, donc, Jésus est dérangé. La deuxième chose, c'est pourquoi ce rituel étrange? Vous avez vu ce qu'il fait, Jésus? Il met ses mains dans les oreilles, il prend de la salive. Enfin, il aurait pu dire, écoute, va, et puis t'es guéri. Hein? Même il a dit à la femme, il n'a même pas fait de geste, il n'a même pas prié, il n'a même pas levé les yeux au ciel. Ben, là aussi, c'est intentionnel. Là aussi, c'est intentionnel, parce que Jésus, il va faire la même chose. Hein, on le verra la prochaine fois. Je crois que c'est toi, David, qui a le message au mois de janvier. Hein. Donc, on le verra la prochaine fois pour la guérison de l'aveugle. Hein, c'est pareil. Et puis, même l'aveugle de Jean 9, hein, il lui met de la boue, machin. Il fait. Enfin, il y a un rituel. Il prend beaucoup de temps. Alors, pourquoi il prend beaucoup de temps? Tout à l'heure, Brigitte, tu as parlé de compassion. Et là, on voit toute la compassion de Jésus. Jésus est un excellent communicant. Il va se mettre en lien avec cet homme. Il va se mettre à son niveau. Souvenez-vous, cet homme, il a un handicap. Il n'entend rien, il n'arrive pas à parler. Il est presque muet, il n'est pas tout à fait muet. Donc déjà, il va l'amener à l'écart. Il ne va pas l'humilier en public, il va le guérir vraiment à l'écart. Et puis, il ne peut pas lui dire un truc comme « Lazare, sort !» Parce qu'il est sourd, d'accord? Et puis, il ne peut pas rentrer dans un dialogue comme avec la femme cananéenne, parce qu'il ne peut pas parler, le gars. Donc, il va utiliser vraiment des moyens qui sont adaptés à ce malade. Et c'est là qu'on voit toute la compassion de Jésus. On appelle ça la compassion ou l'empathie. Mais il se met à la place de la personne. Vraiment, il se met à niveau. Ça, c'est une leçon pour moi aussi, parce que souvent, moi, je débite mes trucs, alors que la personne, elle n'est peut-être pas en phase. si on pouvait, dans nos dialogues, si on pouvait se mettre en lien avec les gens par rapport à là où ils en sont, ça serait formidable. Et regardez le langage corporel de Jésus. C'est vraiment fantastique dans ce passage. Il met ses doigts dans les oreilles. D'accord ? Il y a vraiment un langage corporel. Il touche sa langue avec sa salive, les deux organes qui étaient malades. Ensuite, il lève les yeux au ciel pour bien montrer que lui, bien sûr, il est le fils de Dieu, mais que tout dépend de Dieu. Hein, tu l'as dit, Loïc, tout à l'heure. La prière, elle monte vers Dieu. Et puis, il soupire. C'est probablement un soupir de compassion. Hein, ce n'est pas un soupir de critique. Il sait que le monde est déchu, que la maladie est là à cause du péché. Et il soupire. Et puis, il s'adresse à cette personne en araméen. Ce qui nous fait dire probablement que même si on est en territoire étranger, il est possible que cet homme soit juif. Hein ? Parce que pourquoi on pourrait dire ça ? Ben parce que ses amis, regardez dans le texte, ses amis demandent à Jésus de lui imposer les mains. Et on sait que dans la culture juive, voilà, c'est important, hein, pourquoi hellénisation, culture juive ? Dans la culture juive, l'imposition des mains, c'est un signe de bénédiction. Donc si les amis demandent, c'est que probablement ces gens-là étaient des juifs. Ce qui n'est pas anormal, hein, il y avait des colonisations, comme aujourd'hui. On est en décapole, mais il y avait des foyers juifs, même en décapole. D'accord ? Il s'adresse donc à lui en araméen. Il y a vraiment un langage corporel de Jésus qui est, pour moi, très touchant. Alors pourquoi encore ce rituel étrange ? Eh bien, je crois que au-delà de la maladie, la surdité et le caractère muet, c'est une métaphore de ce qui se passe sur le plan spirituel. C'est une métaphore de ce qui se passe sur le plan spirituel. Regardez ce texte d'Ésaïe. Quand Ésaïe dénonce les mauvais serviteurs que sont les Juifs de l'époque. Qui est aveugle, n'est-ce pas mon serviteur ? Il n'y a pas plus sourd que mon messager. Donc, de toujours dans la Bible, la surdité et l'aveuglement, ce sont des métaphores de ce qui se passe sur le plan spirituel. Et pour guérir une cécité spirituelle, hein, pourquoi je parle de cécité ? Parce que David nous parlera de la guérison de l'aveugle, ça sera la même chose. Là, on a un aveugle, là on a un sourd, la prochaine fois, on aura un aveugle. Parfois, il faut du temps, les yeux ne s'ouvrent pas brutalement, donc Jésus y va par petites touches, parce qu'il sait très bien que notre cécité spirituelle et notre assourdissement spirituel, c'est quoi l'assourdissement ? C'est quand j'écoute la parole et quand je ne la mets pas en pratique. Ça vous arrive ? Donc le Seigneur doit agir par petites touches. Et à Bethsaïda, quand il reviendra, hein, David, tu nous en reparleras la prochaine fois, ben c'est pareil, il fera, en territoire juif, il fera exactement la même chose. Et Jésus va préfigurer la mission future. Il annonce déjà, par cet acte, la mission future que Paul va recevoir de la bouche même de Jésus, en acte 26, c'est l'un des témoignages que rend Paul sur sa conversion. « Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Donc ce miracle, en fait, il annonce déjà tout le plan que Dieu a prévu, hein, de manière filigrane, bien entendu. Alors les conséquences de ça, c'est intéressant aussi. Quelles sont les conséquences de tout ça ? Et vous avez des gens qui vont entendre et admirer Jésus pour les miracles. Alors vous me direz, c'est super. Hein, parce que voilà, Ésaïe a annoncé qu'un jour, les oreilles des sourds s'ouvriront, les yeux des aveugles s'ouvriront. Sauf que, qu'est-ce que Jésus leur demande ? Il leur demande de ne pas ébruiter. Et qu'est-ce qu'ils font, les gens ? Ben, ils ébruitent. Donc les gens écoutent, mais ils ne mettent pas en pratique. Donc on voit un exemple ici de gens qui sont complètement sourds. Peut-être que vous allez écouter des choses ce matin et vous allez comprendre, ah ouais, c'est bien ça, il faut que je le fasse. Et vous allez repartir et vous n'allez pas mettre en pratique. Si vous faites ça, vous êtes sourd. Si moi je fais ça, je suis sourd. Donc ils vont divulguer le miracle malgré l'interdiction de Jésus. Donc cette parabole, elle est pour ces gens-là. Ils entendent et ils ne mettent pas en pratique. Et même les disciples, ils entendent. Et juste après, quand ils vont traverser sur la barque, Jésus leur dira, voyez, ce texte de Marc 8, suivant, « Pourquoi raisonnez-vous le fait que vous n'avez pas pris de pain? Méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Donc c'est une chose que d'écouter, c'est une autre chose que de mettre en pratique. C'est comme Pierre. Peu après, ils iront à Césarée de Philippe, c'est tout au nord. Jésus va demander « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre va dire « Tu es le Christ, super, grand enthousiasme, comme la foule, ils vont louer Jésus. » Sauf qu'au moment où Jésus va parler de sa passion, Pierre va dire « Non, non, à Dieu ne plaise, tu ne feras pas ça. » Donc vous voyez, même Pierre, il n'écoute pas. Les disciples, ils n'écoutent pas. Ils sont dans la barque, Pierre, il n'écoute pas. La foule qui est autour, elle n'écoute pas. Et nous, est-ce qu'on écoute ? C'est super. Bravo Loïc. Tu pourras dire à ta maman, « Maman, j'écoute tout ce que je dis. J'écoute tout ce que tu dis et j'obéis à tout ce que tu me demandes. » C'est formidable. Loïc, on va te mettre une auréole sur la tête. Voilà. Bon, allez, on avance parce qu'il y a la multiplication des pains. C'est encore un gros morceau. Ouh là 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 là. Alors, la multiplication des pains, vous voyez où ça se passe. Là, la multiplication des pains, je vais aller très vite parce que bon, ça a été traité par Colin. On a fait également toute l'étude de Jean 6, le « Je suis de Jésus ». Mais il y a quand même des trucs super intéressants dans la multiplication des pains. Je ne peux pas ne pas vous le dire. Donc, on est bien d'accord, il y a deux multiplications des pains qui sont un peu différentes. Je vous ai noté les différences pour vous aider, d'accord ? Il n'y a pas le même nombre de pains, d'accord, selon les situations, d'accord ? Il n'y a pas le même nombre de paniers qui sont embarqués. D'ailleurs, ce n'est pas les mêmes mots qui sont utilisés, mais peu importe. Dans le grec, il y a un mot pour panier, un mot pour corbeille. C'est une question culturelle. L'un se fait en territoire juif, l'autre se fait en territoire païen. Il n'y a pas le même nombre d'hommes, d'accord ? Territoire juif, territoire païen, c'est ça qui est important à noter. C'est que les deux multiplications des pains, elles ne sont pas au même endroit. Il y en a une qui est dans le territoire juif, l'autre qui est dans le territoire étranger, ce qu'on a vu, le territoire hellénisé, dans le territoire de la Décapole. Qu'est-ce qui est intéressant à noter ? Il y a une symbolique des chiffres, là, qui est importante à noter. 7, c'est quoi ? C'est le chiffre de la plénitude de Dieu, d'accord ? Le 7, c'est l'abondance. Ça nous montre qu'il y a de l'abondance. Il reste, il y a des restes, peu importe combien il en reste. Pourquoi je vous dis c'est important, territoire juif, territoire païen ? Parce que 12 corbeilles qui partent, c'est le symbole, 12, c'est le symbole d'Israël. Les 12 tribus, les 12 apôtres, les 24 êtres vivants dans l'Apocalypse, etc. 2 fois 12. Et 4, c'est quoi ? Oui, alors c'est les évangiles, mais plus généralement, tu as raison Gérard, c'est le chiffre de la terre. D'accord ? 4, c'est le chiffre de la terre, c'est les 4 saisons, c'est les 4 points cardinaux. D'accord ? C'est les 4 évangiles. C'est les 4 jours que Dieu a mis pour créer la terre dans Genèse 1. Donc c'est vraiment le 4, c'est l'achèvement de la création, c'est l'universalité, la complétude terrestre. Donc voyez le lien. Pourquoi Jésus multiplie 2 fois les pains ? Parce qu'il y a une multiplication pour montrer que Jésus est venu pour les Juifs et une multiplication pour montrer que Jésus est venu pour les non-Juifs. Et c'est ce que Paul dira aux Éphésiens, il a abattu le mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Il les a tous réconciliés parce qu'il y a un seul peuple. Jésus dira, je suis venu pour qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger. D'accord ? Et là, il accomplit la bénédiction qui est promise à Abraham, toutes les familles de la terre. Donc, il n'y a plus juifs, il n'y a plus de non-juifs. Vous voyez, au travers de ce message, il y a vraiment quelque chose de puissant qui passe, que Jésus est en train de montrer. Au travers de 3 miracles insignifiants, il nous montre quelque chose. Il y a un accomplissement. Comme quoi Jésus est le pain de vie pour tout le monde. Et là, je reviens à ce qu'il a dit dans Jean 6, à la première multiplication des pains. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette multiplication des pains ? Là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais que vous notiez le contraste entre Jésus et ses disciples. Les disciples, ils sont incrédules. D'accord ? Où pourrions-nous trouver tous ces pains ? Ils n'ont pas appris. Ils viennent d'assister à une multiplication des pains, ils viennent d'assister à la providence de Jésus, ils reposent la même question. Ils n'ont rien appris. D'accord ? Et puis, à côté de ça, la compassion de Jésus. Notez la compassion de Jésus. Jésus, ici, au verset 2, il nous est dit, il est bouleversé par cette foule qui est là depuis 3 jours, qui n'a rien à manger. Les disciples, ils sont tournés vers leur incapacité. Leur manque de mémoire, ils ne se souviennent plus des miracles de Jésus. Jésus a multiplié les pains quelques temps avant, ils ne s'en souviennent plus. Et lui, Jésus, il est bouleversé. Le mot grec qui est utilisé ici, c'est littéralement, il a les boyaux retournés. Jésus, il a les boyaux retournés. Il voit cette foule qui a, qui n'a rien à manger, qui est là depuis 3 jours, on est dans un lieu désert, souvenez-vous, là on est en fin de saison. Hein, la première multiplication des pains à Tacba, il y avait une herbe verte, il les fait asseoir dans l'herbe et tout, c'était le printemps, c'était l'abondance, là on est probablement en fin de saison, il est dans un lieu désert, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de supérette, 3 jours qu'ils sont là, ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils mourraient pour... Et Jésus, il a l'estomac retourné, alors que ses disciples, ben, rien du tout, quoi. C'est vraiment... Et je me dis, Jésus, il a l'estomac retourné, et moi, en tant qu'enfant de Dieu, parfois, j'aurais besoin d'avoir aussi l'estomac retourné et d'être bouleversé par les situations que je vois. C'est vraiment formidable, hein. Jésus qui est bouleversé parce qu'il voit cette foule. Hein, il dira à un autre moment, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors pourquoi cette multiplication des pains? Pourquoi est-ce que Jésus répète ça? Le fait 2 fois, ben on l'a vu déjà. Premièrement, parce qu'il y a la réconciliation juif et non-juif. Il veut vraiment nous montrer qu'il est venu pour tout le monde. Deuxièmement, vous savez que la répétition dans la Bible, c'est un renforcement. Il veut insister sur ce miracle. La multiplication des pains, en dehors de la résurrection de Jésus, c'est le seul miracle qui est présent dans les 4 évangiles. Le seul. À part la résurrection et donc la passion du Christ. Ça, c'est la première multiplication des pains. La deuxième, elle est présente que dans Marc et dans Matthieu. Ok ? Donc, il veut souligner l'importance de ce miracle. Joseph, par exemple, quand il interprète le rêve de Pharaon, il dit, si ce rêve s'est répété 2 fois, c'est que la décision de Dieu est irrévocable, elle est certaine. Donc, ça veut dire que ce miracle, il atteste bien que le mur de séparation va tomber, que les juifs et les non-juifs seront réconciliés. Et nous, on est là, 20 siècles plus tard, on est des témoins vivants de ce que Dieu a abattu ce mur, et il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. On est tous un en Jésus-Christ, on fait partie du corps de Christ. Et puis une troisième raison, hein, il le dira plus tard à ses disciples, hein, quand il leur dira « Méfiez-vous du levain d'Hérode », c'est qu'il y a des vrais pains et des faux pains. Et donc il ne faut pas se laisser détourner par les fausses doctrines et le faux pain des pharisiens et d'Hérode, et notamment le faux pain religieux. Attention, Jésus met plus en garde contre le faux pain religieux que toutes les idoles de l'extérieur, de Syrie, de Damas, les Baals et les Astartés. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus dangereux. La religiosité est plus dangereuse pour nous que simplement juste des fausses idoles. C'est les idoles qu'on ne voit pas, qu'on ne suspecte pas, qui sont le plus à même de venir nous faire prendre la place de Dieu. Et enfin, c'est une métaphore spirituelle. Le pain est une métaphore spirituelle de l'enseignement. N'oubliez pas, je vous ai dit, Jésus, il est là pour enseigner ses disciples. Et donc, en multipliant les pains, il ne fait que passer de la nourriture physique à la nourriture spirituelle. Et les deux sont importants. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Vous savez que dans toute bonne prédication, hein, ça c'est Philippe Péria qui nous l'a appris, hein, on commence par une application de l'époque pour les disciples et une application pour nous. Donc, je ne vais pas déroger à la règle, je pense que c'est important. Qu'est-ce que les disciples peuvent retirer de tout ça? Eh bien, eux, ils ont tendance à se débarrasser d'un problème qui dérange. Et j'en dirai pas plus, je l'ai déjà commenté. Notez quand même que Pierre et Jean, ils étaient là. Et qu'est-ce que font Pierre et Jean dans Acte 3? Souvenez-vous, ils montent au temple pour prier. C'est louable. 3 heures de l'après-midi, ils vont au temple pour prier. Seigneur, on va te rencontrer. On a des œillères. Ben non, il y a un boiteux à la porte du temple. Pierre et Jean vont s'arrêter et ils vont guérir ce boiteux. Ils vont savoir être dérangés. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont vu le maître savoir être dérangé. Est-ce que nous, cette semaine, le rendez-vous divin que Dieu va nous mettre sur la route, est-ce qu'on va savoir être dérangé? Ou est-ce qu'on va foncer tout droit parce qu'on est super religieux et qu'il faut aller au culte et arriver à 10h moins 1? Je plaisante. Hein. La deuxième chose, c'est leur incapacité à apprendre d'un événement, en l'occurrence la multiplication des pains. Et pour moi, je pense, hein, quand on forme nous les disciples, hein, vous savez qu'on a lancé le programme Discipula émotionnellement sain, et on forme des disciples émotionnellement sains, ce qu'on leur demande, notre première caractéristique, le premier critère de recrutement, c'est d'être apprenant. Quelqu'un qui arrive et qui dit « je sais tout », ça ne nous intéresse pas. La première caractéristique d'un disciple, c'est d'être apprenant. C'est la question que je vous pose, est-ce que vous avez un cœur apprenant? Est-ce que vous êtes prêt à apprendre? En tout cas, c'est ce que Jésus demande. Un caractère apprenant. Et il va reprocher ça aux disciples. Mais vous ne comprenez donc pas? Avez-vous des oreilles pour entendre? Avez-vous des yeux pour voir? Ne comprenez-vous donc pas? Et deux fois, il va le répéter. David, tu nous en parleras la prochaine fois. Troisième chose, c'est leur capacité à entendre et à comprendre. C'est ce que je viens de dire. C'est la surdité et l'aveuglement spirituel, la métaphore du sourd et plus loin de l'aveugle nous amène à ça. Alors très rapidement, trois applications pour nous, il y en a plein d'autres, mais j'en ai choisi trois. Revenir sur la foi persévérante. Souvenez-vous de ces exemples, la femme cananéenne et la femme atteinte d'une perte de sang. D'accord ? Une païenne, une juive, les deux sont pareilles. Elles ont la foi qui surmonte les obstacles. Pourquoi ? Parce qu'elles arrivent à regarder à Jésus. Il y a beaucoup de similitudes entre ces deux. Une foi persévérante qui surmonte les obstacles. Deuxièmement, la compassion de Jésus, l'intentionnalité et la compassion de Jésus qui sait se laisser déranger. Et le troisième point, je ne vais pas commenter parce que je l'ai déjà fait de nombreuses fois. Qu'est-ce que Jésus a besoin de guérir chez moi ? C'est une question de conclusion que je vous laisse et que je me laisse aussi à moi. Qu'est-ce que Jésus a besoin de guérir chez moi ? On va prier. Seigneur notre Dieu, ta parole est vraiment extraordinaire parce que moi je suis ébloui par la manière avec laquelle tu agis, la douceur, la compassion, le tact, la tendresse. Toute ton attitude, Seigneur, respire la perfection. Seigneur, je suis tellement loin de toi et pourtant... Par ta grâce, Seigneur, je peux m'approprier, si tu le veux bien, tout ce que je viens d'entendre. Et Seigneur, aide-moi à ne pas être sourd, aide-moi à ne pas être aveugle, mais à voir, toi, ce que tu veux me montrer et ce que tu veux me dire. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs qui sont là, que tu as amenés ce matin, et Seigneur, accompagne-les chacun. Donne-leur une journée paisible, en famille, alors que les fêtes de Noël approchent. Merci Seigneur. Amen.